philosophie de la famille à la communauté politique, le 10 mars 1995, à Rimont. Premier cours offert par le père Marie-Dominique Gouthière.
Alors d'abord, bienvenue pour cette session de philosophie, c'est-à-dire de recherche de vérité. Donc je pense qu'on vous a communiqué l'horaire, vous verrez sûrement, puis il y en a sûrement parmi vous qui sont déjà un petit peu habitués. Donc il y a à la fois des conférences et puis des groupes de réponses aux questions qui sont là pour vous aider à réfléchir et à poser des questions sur les cours qui vous sont donnés. Alors voyez, cette session est faite en collaboration, c'est-à-dire que je prépare autant que je le puis le terrain pour le père Philippe qui viendra dès demain après-midi. Donc ce que je vais faire, je me suis un petit peu entendu avec lui, c'est avec vous présenter surtout deux positions historiques. Pour nouer le problème, vous montrer comment le problème peut se poser et s'est posé pour les philosophes. Et puis ce qui permettra déjà de réfléchir, de poser quelques questions, je vais revenir dans un instant. Et puis à partir de là, il pourra lui-même, voyez, vous aider à entrer dans une réflexion philosophique pour aujourd'hui. Parce que vous voyez, je crois bien que le problème qu'on doit aborder est un problème très important aujourd'hui. C'est le problème par excellence de la philosophie politique et les rapports entre la famille et la cité. Ça s'intitule « De la famille à la communauté politique ». Vous voyez, c'est au fond se poser la question de savoir quel est le véritable fondement d'une philosophie politique. Vous voyez, c'est très important comme question parce que vous allez voir les deux positions que je vais étudier avec vous, elles sont les deux grandes positions les plus connues, c'est celle de Platon et celle d'Aristote, elles sont diamétralement opposées. Pour Platon, je vais y revenir tout à l'heure, le fondement de la communauté, c'est l'individu. Pour Aristote, c'est la famille. Oui, il y a donc deux positions tout à fait différentes, on essaiera d'étudier ça, et de voir comment, pour retrouver aujourd'hui une véritable philosophie politique, je crois qu'il faut retrouver la nécessité, oui, philosophiquement, de découvrir la famille comme la cellule fondamentale de la vie politique. Ça, je crois que c'est très important pour le philosophe. Oui, il ne s'agit pas de se contenter uniquement d'un langage chrétien sur la famille. Avant de réfléchir sur ce que c'est que la famille chrétienne, qui n'est pas qu'un journal, il y a une réflexion philosophique sur la famille. Qu'est-ce que c'est que cette communauté humaine, naturelle? Sur quoi repose-t-elle? Quelle est sa structure? Quelle est son expérience? Quelle est l'expérience qui lui donne naissance? Et avec ça, tout le problème de l'éducation. Et puis ensuite, comment la famille peut-elle être, le fondement d'une communauté politique? Le père Philippe vous montrera ça, mais je crois que c'est très important parce que, vous voyez, on est dans un contexte politique qui attaque la famille sur tous les plans. Alors, pour le philosophe, c'est une question intéressante, vous voyez. Des attaques, oui, très, si on peut montrer ça, les diverses attaques qui touchent la famille aujourd'hui, les attaques qui touchent, oui, l'amour même des époux. Donc ça, ce serait une question très importante, vous voyez. Quelle est la place, comment l'amour des époux, qui est pour le philosophe un véritable amour d'amitié, donc qui implique un choix libre, comment cet amour des époux est-il la source de la famille? Alors vous voyez, quand on attaque l'amour des époux, autrement dit par exemple, quand l'État, quand le gouvernement politique prône des lois qui ne favorisent pas cette stabilité de la famille en favorisant l'amour des époux, ou bien quand on s'immisce dans l'amour des époux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, le problème de la fécondité. Et dans la ligne de la fécondité, tout le problème de l'éducation. Mais c'est tous ces problèmes-là sur lesquels vous devez réfléchir. Comment est-ce que la communauté politique suppose la famille et quel est donc son lien avec l'amour d'amitié? Oui, est-ce qu'on peut dire que l'amour des époux est le fondement de la communauté politique? C'est important à se poser comme problème. Donc aussi toute la question du mariage comme institution. Oui, quand par exemple dans un pays, on dit qu'on prône des lois qui suppriment l'institution politique du mariage et juridique, est-ce que ça a un sens pour le philosophe ou est-ce que c'est quelque chose qui humainement est impossible à accepter? Ensuite, le problème de la fécondité et le problème de l'éducation des enfants, parce que cette fécondité, qui est une fécondité au niveau humain, elle ne s'arrête pas au fait de donner la vie, mais elle implique d'éduquer une personne humaine. L'enfant qui naît de l'amour des époux, il doit devenir une personne humaine à part entière. Donc tout le problème de l'éducation, c'est la responsabilité propre des parents. Et puis, troisième aspect qu'on reverra avec Aristote, c'est tout le problème de l'économie. C'est l'aspect politique implique la prise en compte de la dimension matérielle, parce qu'il faut bien vivre. Et toute la place de l'économie, qui pour à l'époque d'Aristote est au niveau de la famille, qui est aujourd'hui est à un autre niveau. Vous voyez, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, même au niveau économique, vous voyez, on ne favorise pas la vie de la famille. Donc, ça pose une question pour le philosophe. Vous voyez, est-ce que quand la société politique ou quand la communauté politique, vous voyez, attaque ou permet, légitime des attaques contre la famille, est-ce qu'elle n'est pas en train de scier, vous voyez, la branche sur laquelle la communauté politique repose? C'est ça qui est important à voir. Vous voyez. Je crois que si on détruit la famille ou si on laisse la famille se détruire politiquement, on supprime la communauté politique. Vous voyez, c'est le problème qu'il faut étudier. Ou bien, est-ce qu'on doit être d'accord avec la position de Platon, hein, qu'on va essayer d'étudier, qui dit que la communauté politique repose sur l'individu. Donc, qu'est-ce que c'est que la société politique? C'est un agrégat d'individus, oui, unis par nécessité, ou bien, selon certaines théories modernes, oui, par un contrat social, par un intérêt général, etc. Oui, c'est important à poser comme problème. Hein. Mais quand on vous dit de la famille à la communauté politique, ça veut dire quel est le fondement naturel de la communauté politique. Autrement dit, est-ce qu'on peut découvrir une vraie philosophie politique dans le monde d'aujourd'hui? Et qui dit hein, philosophie? La philosophie, c'est une recherche de la vérité. Alors oui, on pourrait dire, mais dans ce domaine-là, dans le domaine politique, il n'y a pas de vérité qui s'impose. C'est très ancien comme position, hein. C'est déjà les sophistes qui disaient ça. Les sophistes, à l'époque d'Aristote et de Socrate, disent déjà hein, que la vie, au niveau politique, n'implique rien de naturel, que c'est purement une convention. Et c'est pour ça qu'on dira qu'on est uniquement au niveau de la loi, et que la loi est quelque chose qui est uniquement conventionnel dans cette position. La loi politique hein, est quelque chose qui unit des individus dans une communauté, mais c'est parfaitement conventionnel. Vous voyez ce que dit, hein, à une toute autre époque, ce que dit Pascal, hein, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc c'est chaque pays, son régime politique, chaque pays, ses conventions politiques, mais au fond, il n'y a rien de stable là-dedans. Vous voyez, est-ce qu'on est uniquement dans le domaine des opinions, dans quelque chose de purement changeant, de purement relatif, ou bien est-ce qu'on atteint au niveau politique quelque chose qui est une véritable dimension de l'homme? Vous voyez, est-ce qu'on atteint une certaine vérité sur l'homme au niveau politique? Alors je crois que pour répondre à cette question, il faut voir les liens entre la famille et la communauté politique. Parce que, c'est ce qu'on verra avec Aristote, si la famille est une communauté naturelle, la cité est donc aussi une communauté naturelle. Vous voyez, c'est l'argument que donne Aristote. Ou bien, si ça repose uniquement sur l'individu, c'est donc que la vie politique est uniquement une question de nécessité. On vit ensemble parce qu'on a besoin de s'appuyer les uns sur les autres, mais ce n'est pas quelque chose qui suppose un certain bien humain. Vous voyez, je dis ça très schématiquement en commençant, parce que c'est forcément beaucoup plus complexe, mais pour vous poser le problème, et pour voir la question, quand on est au niveau politique, a-t-on besoin, pour comprendre jusqu'au bout hein, la philosophie de l'homme dans une communauté politique, de réfléchir sur cette communauté fondamentale qu'est la famille? Et je dirais que c'est la chose la plus importante aujourd'hui au point de vue politique. On doit réfléchir philosophiquement sur ce que c'est que la famille et sur son rôle fondamental par rapport à la vie politique. Et parce que ça touche aussi le problème de l'éducation. Vous voyez, hein, je ne vais donc pas faire, bien que nous soyons en période d'élection, hein, une session sur des opinions de partis politiques. Vous voyez, non. La politique, ce n'est pas une question d'opinion. C'est une question de réflexion sur l'homme en philosophie. Comment l'homme est-il impliqué dans le domaine politique? Vous voyez, dans le domaine politique au sens très grand du terme, hein, c'est-à-dire hein, la politeia pour les Grecs, c'est la chose publique, c'est ce qui concerne la cité. Donc, la coopération d'un homme avec d'autres hommes dans une communauté. Alors, on essaiera de voir ça, hein, parce que c'est très important et c'est justement là qu'on va saisir la différence entre deux positions historiques majeures. Alors, vous voyez, je montre un petit peu comment je compte réfléchir avec vous. Vous voyez, je crois qu'au point de vue philosophique, vous voyez, on part toujours de l'expérience. Donc, le point de départ de la philosophie politique, c'est aussi une expérience. Mais pour nous aider dans cette réflexion, il faut d'abord voir comment les philosophes qui nous ont précédés, qui ont déjà posé le problème avant nous, ont pu réfléchir. C'est ce qu'on appelle en philosophie une topique historique, une enquête historique. On réfléchit avec une interrogation philosophique sur les diverses opinions des philosophes qui ont précédé. Alors, au point de vue historique, vous voyez, c'est très simple. La philosophie politique est très très vaste. Mais je crois qu'il y a deux positions qu'il faut regarder, je l'ai mentionné tout à l'heure, celle de Platon et celle d'Aristote. Alors, pourquoi ? Parce que ce sont de fait les Grecs qui sont au point de départ de la réflexion philosophique. Et dans l'histoire de la pensée, les deux œuvres politiques premières et majeures, ce sont celles de Platon et celles d'Aristote. Alors vous voyez, il y a deux œuvres, si on veut faire de la philosophie politique, il y a deux œuvres qu'il faut à tout prix avoir lues, qu'il faut essayer de comprendre, parce que de fait, elles sont l'une et l'autre la source de toute la réflexion politique ultérieure. Et donc, d'une part, la République de Platon, d'autre part, la Politique d'Aristote. Alors, vous voyez, ce sont vraiment les deux premières grandes œuvres philosophiques au niveau politique. Vous voyez, avant cela, vous avez quelques réflexions, mais qui sont très embryonnaires. Vous voyez, par exemple, chez Hésiode, ou bien avant, vous voyez, alors je ne prends pas en compte tout l'aspect historique, vous voyez, parce que ce serait aussi très, très intéressant de voir la naissance de la démocratie, par exemple, à Athènes, en Grèce, etc. Mais ça, c'est un point de vue historique. Vous voyez, toute l'influence de Solon, par exemple. Solon et toute ce qu'on appelle les sept sages. Vous voyez, au point de départ, les sages en Grèce sont des hommes qui sont à la tête de la cité, sont des hommes qui réfléchissent au niveau de la cité. Mais comme réflexion philosophique, on entre dans cette réflexion avec Platon dans la République, avec Aristote dans la politique. Vous voyez, Socrate dit textuellement qu'il ne s'intéresse pas à la réflexion politique. Vous voyez, avant Platon, il n'y a pas de philosophie politique qui soit vraiment développée pour elle-même. Il y a des éléments, mais pas d'œuvre, si vous voulez, qui fasse une espèce de synthèse sur ce que c'est que la politique. Socrate dit que lui, il s'intéresse uniquement à ce qui est bon et à ce qui est juste, à cultiver son âme et à pratiquer la vertu, oui, et que les affaires politiques ne sont pas son problème. Il ne veut pas s'occuper des affaires de la cité. Socrate le dit dans une œuvre qui est écrite par Platon qui s'appelle L'Apologie de Socrate, donc, où Platon met Socrate en scène dans son procès. Et Socrate dit qu'il n'a jamais voulu se mêler de politique, des affaires de la cité. Alors on va voir, parce que je vais vous lire un texte de Platon qui est très intéressant à cet égard. Tandis que Platon, vous voyez, est le premier, après Socrate, à vouloir avoir une véritable réflexion au niveau politique. Et puis je crois que la politique d'Aristote ne peut se comprendre, je ne dis pas qu'en sept contrats, mais comme une réponse par rapport à la République de Platon. Et vous verrez, je vous lirai sûrement ce soir et demain, quelques textes d'Aristote qui sont des critiques d'Aristote sur Platon au niveau politique extrêmement sévères. Je crois que c'est parmi les lieux où Aristote est le plus en colère dans ses œuvres. Il y a deux lieux où Aristote est féroce contre Platon. C'est à propos des idées en soi, dans la métaphysique, où il dit que Platon fait des métaphores poétiques et qu'il fait du vide. Aristote dit ça. Dire que la participation explique quelque chose, dit-il, c'est faire des métaphores poétiques et faire du vent. Donc vous voyez comment Aristote parle de Platon. Et puis dans la politique, Aristote critique toute la vision politique de Platon, notamment celle de l'unité de la cité. Donc ça, on y reviendra. Quand on est au niveau politique, est-ce qu'on cherche en premier lieu l'unité ou est-ce qu'on cherche le bien de tous ? Donc ça, ce sera la question, et on verra la critique qu'Aristote adresse à Platon, qui est extrêmement virulente. Mais vous voyez, je dois commencer pour ça par essayer de comprendre un petit peu avec vous la position de Platon. Qu'est-ce que Platon a voulu faire quelle est sa recherche propre? Alors vous voyez, je crois que ces deux positions sont vraiment intéressantes parce que peut-être, vous voyez, ce serait intéressant à étudier. Si vous avez, je dirais, si parmi vous, il y en a qui ont beaucoup étudié la philosophie politique, il y a une recherche qui serait intéressante, c'est de voir comment la République de Platon est à l'origine de toutes les erreurs politiques. Je dis ça franchement. Parce qu'on a dedans les principes de la vie politique, vous voyez, que ensuite on retrouvera tout le temps, si vous voulez. Et je vous le montrerai, parce que c'est intéressant comme problème. Parce qu'il faut reconnaître, vous voyez, Platon est un très grand génie. Et il est le premier à vraiment réfléchir de manière, vous voyez, profonde sur ce problème. Mais comment répond-il aux questions qu'il se pose et qui se posent à l'homme dans la communauté politique? Et ces réponses que Platon donne peuvent-elles être admises, ou au contraire sont-elles source d'une quantité de confusion? Et puis, quelle réponse Aristote apporte-t-il et quelle distinction montre-t-il pour répondre à ces erreurs qu'il estime à celles de Platon? Donc je vais commencer avec vous cette recherche. Alors voyez, je voudrais commencer par lire avec vous quelques extraits de la République, mais avant, un petit texte de Platon qui est autobiographique, qui est dans une lettre, qui est un texte très connu, la lettre 7 de Platon. Donc on a quelques lettres de Platon dont on est en tout cas sûr que la lettre 7, celle dont je vais vous lire quelques extraits, est authentique. Donc ça montre quel a été l'intérêt de Platon au point de départ pour réfléchir sur cette question au niveau politique. Donc c'est lettre 7. Et la référence c'est 324 et suivant. Donc c'est une lettre que Platon adresse aux habitants de la Sicile et de Syracuse. Vous savez que Platon a connu des expériences malheureuses. Platon a voulu, si vous voulez, on verra ça dans la République. La République de Platon, c'est une gigantesque construction qui montre ce que doit être la cité idéale. Vous voyez ? Quelle doit être la communauté politique idéale. Mais Platon ne s'est pas contenté d'en faire un idéal, il a voulu l'appliquer. Et ça a été des échecs. Vous voyez, très significatif à plusieurs reprises. Platon a même été vendu comme esclave. Vous voyez, donc pour Platon, c'est la plus grande des déchéances. Vendu comme esclave, heureusement, je crois qu'il a été racheté par quelqu'un qui était bienveillant, qui l'a ramené jusqu'à Athènes, où il a pu reprendre sa liberté philosophique. Vous voyez. Alors, dans cette lettre, Platon écrit aux habitants de Syracuse en leur donnant des conseils, en montrant pourquoi la mise en œuvre de sa cité idéale a échoué. Et la faute, bien sûr, leur revient à eux, pas à lui. Vous voyez. Donc, donc il y a tout un aspect autobiographique où Platon montre comment il en est venu à s'intéresser à ce problème politique. Jadis dans ma jeunesse, j'éprouvais ce qu'éprouvent tant de jeunes gens. J'avais le projet du jour où je pourrais disposer de moi-même d'aborder aussitôt la politique. Vous voyez, ambition, il veut faire Sciences Po, quoi, vous voyez. Ou d'autres écoles, vous voyez. Or, voici en quel état s'offraient alors à moi les affaires du pays. Oui, Platon, a vraiment une âme noble, il a de nobles sentiments, et veut, vous voyez, répondre à l'état d'injustice dans lequel se trouve la cité à son époque. La forme existante du gouvernement battue en brèche de divers côtés, une révolution se produisit. À la tête de l'ordre nouveau, 51 citoyens furent établis comme chefs, 11 dans la ville, 10 au Pirée. Ces deux groupes furent préposés à l'agora et à tout ce qui concerne l'administration des villes. Mais 30 constituaient l'autorité supérieure avec pouvoir absolu. Oui, avec pouvoir absolu. Plusieurs d'entre eux étaient soit mes parents, soit des connaissances, qui m'invitèrent aussitôt comme à des travaux qui me convenaient. Oui, le népotisme est déjà présent. Je me fis des illusions qui n'avaient rien d'étonnant à cause de ma jeunesse. Je m'imaginais en effet qu'ils gouverneraient la ville en la ramenant des voies de l'injustice dans celles de la justice. Aussi observais-je anxieusement ce qu'ils allaient faire. Or, je vis ces hommes faire regretter en peu de temps l'ancien ordre de choses comme un âge d'or. Entre autres, mon cher vieil ami Socrate, que je ne crains pas de proclamer l'homme le plus juste de son temps, ils voulurent l'adjoindre à quelques autres chargés d'amener de force un citoyen pour le mettre à mort. Et cela, dans le but de le mêler à leur politique, bon gré mal gré. Socrate n'obéit pas et préféra s'exposer au pire danger plutôt que de devenir complice d'actions criminelles. À la vue de toutes ces choses et d'autres encore du même genre et de non moindre importance, je fus indigné et me détournai des misères de cette époque. Bientôt les 30 tombèrent et avec eux tout leur régime. De nouveau, bien que plus mollement, j'étais pressé du désir de me mêler des affaires de l'État, de la cité. Il se passa alors, car c'était une période de troubles, bien des faits révoltants. Et il n'est pas extraordinaire que les révolutions aient servi à multiplier les actes de vengeance personnelle. Oui, c'est très actuel. Pourtant, ceux qui revinrent à ce moment usèrent de beaucoup de modération. Alors, je passe un passage, voyez, et puis j'aboutis à cette chose qui est très importante pour comprendre Platon. J'attendais toujours pour agir le bon moment. Finalement, je compris que toutes les cités actuelles sont mal gouvernées, car leur législation est à peu près incurable, sont d'énergiques préparatifs joints à d'heureuses circonstances. Vous voyez, ça, c'est très intéressant. Là, quand on est au niveau politique, vous voyez, au niveau politique, il y a toute une réflexion de la philosophie politique. Mais il y a aussi tout un aspect historique qui intervient. Et ça, je crois que c'est très important d'y réfléchir. Vous voyez. Je ne peux pas faire une philosophie politique indépendamment du contexte historique. Vous voyez, à la différence de l'éthique, ou même d'autres parties de la philosophie qui atteignent une vérité qui est plus profonde. La dimension politique étant au milieu de toutes les circonstances humaines, circonstances politiques, les changements qui peuvent se produire, et donc toutes les questions de coutume aussi, vous voyez. Donc, intervient dans le domaine politique toute la question de la culture, qui sont des choses relatives pour le philosophe, toute la dimension historique. Parce qu'il y a cela, en philosophie politique, il y a non seulement la dimension de réflexion philosophique, vous voyez, sur ce que c'est que l'homme qui coopère avec un autre, et qu'est-ce que c'est que coopérer vraiment avec un autre homme dans une communauté politique. Il y a toute une dimension historique qui est au problème des circonstances. C'est pour ça que, vous voyez, je pense que le père Philippe y reviendra avec vous, qu'on peut dire, vous voyez, qu'au niveau politique, le moindre mal a un sens, mais pas au niveau moral. Au niveau moral, le moindre mal est un mal. Donc je ne peux jamais légitimer un bien par un mal au niveau éthique. Tandis qu'au niveau politique, il y a quelquefois le moindre mal qui intervient. Étant donné les circonstances historiques dans lesquelles nous sommes, le moindre mal au niveau politique, c'est celui-là. Et c'est ce que dit Platon, vous voyez. Je compris que la législation est à peu près incurable sans d'énergiques préparatifs. Ça, c'est la réflexion philosophique. Qu'est-ce que c'est vraiment que faire une loi? Et aussi l'éducation des hommes. Il faut préparer les hommes à recevoir une loi. Pour les Grecs, la loi a toute une dimension éducative. C'est bien loin de nos préoccupations aujourd'hui. On fait une loi pour préserver le bien d'une cité le mieux possible, étant donné les circonstances dans lesquelles on se trouve. Et très souvent, aujourd'hui, voyez, c'est pour ça qu'on voit qu'on a une corruption politique, on fait des lois uniquement pour légitimer une situation de fait. Voyez. On entérine une situation parce que tout le monde fait comme ça, donc rendons-le légal. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Alors que pour la philosophie politique, dans ce cas plus profond, voyez, la législation, c'est rendre, aider l'homme à découvrir vraiment le sens de sa vie. Et donc préserver le mieux possible sa finalité au niveau politique. Donc je compris que tous les États actuels sont mal gouvernés, car leur législation est à peu près incurable sans d'énergiques préparatifs joints à d'heureuses circonstances. Je fus alors irrésistiblement amené à louer la vraie philosophie et à proclamer que, à sa lumière seule, on peut reconnaître où est la justice dans la vie publique et dans la vie privée. Et ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui importe à Platon? Le problème de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Et au fond, Platon est dans un contexte qui le révolte, parce qu'il constate que la communauté politique vit dans l'injustice. Oui. Il dit, on s'est servi de la politique pour faire des vengeances personnelles. On est dans l'injustice la plus complète. Oui, ça aussi, c'est très intéressant. Donc, comment pouvons-nous rendre aux hommes le sens de la justice? Et de fait, c'est une vraie question au point de vue politique. Comment retrouver une justice politique? Comment peut-on vivre dans une communauté qui implique une vraie justice? Donc, il y a une réflexion qui est importante à mener ici. Alors, pour Platon, je fus amené à louer la vraie philosophie et à proclamer que, à sa lumière seule, on peut reconnaître où est la justice dans la vie publique et dans la vie privée. Donc, le problème qui intéresse Platon, c'est qu'est-ce que la justice? Et c'est ce qu'on va voir dans La République. La République, c'est un dialogue qui s'appelle « De la République ou bien de la justice ». C'est un dialogue qui est sur la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice politique? C'est un problème qui est important. Vous voyez, je vous pose ça comme une question. Quelle est la place de la justice dans la vie politique? Parce que on verra que pour Platon, c'est la vertu qui est dominante. Et ce ne sera pas la vertu dominante pour Aristote. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui commande la communauté politique? Est-ce que c'est la justice? Donc, les maux ne cesseront pas pour les humains. Vous voyez, c'est là où est tout l'intérêt de la position de Platon. Les maux ne cesseront pas pour les humains avant que la race des purs et authentiques philosophes n'arrive au pouvoir. Ou que les chefs des cités, par une grâce divine, ne se mettent à philosopher véritablement. Vous voyez, ça c'est pour Platon, je dirais de manière, c'est très autobiographique. Comment résoudre le problème de la justice? Il faut que le philosophe soit le gouvernant. Première possibilité, et c'est celle que Platon va défendre dans La République, ou bien que le gouvernant devienne philosophe. Et c'est ce que Platon a essayé de faire à Syracuse avec le tyran Denis et son successeur Dion. Il a essayé d'inculquer quelques notions philosophiques à ce brave tyran hein, qui passait toute sa journée, dit Platon, à faire des festins. Oui. Alors on ne peut pas gouverner une communauté politique de cette manière. Oui. Et si dans une communauté religieuse, le prieur s'enivre toute la journée, c'est difficile, voyez, d'avoir un gouvernement qui soit un peu... Vous voyez, c'est important de voir la position de Platon. Pour résoudre le problème de l'injustice devant laquelle on se trouve, il faut que le philosophe devienne gouvernant, ou que le philosophe soit gouvernant, voyez, gouverne la cité, on verra dans la République comment, ou bien que le gouvernant acquiert la philosophie. Voyez, mais alors posons-nous la question, voyez, quelle philosophie ? Parce que je dirais, si on lit ça de manière large, voyez, générale, on est assez d'accord. Il y a une recherche de vérité. Voyez. Mais quelle philosophie ? Et c'est ça qui sera intéressant de voir ça chez Platon. Quand Platon a sa vision politique, quelle est la conception philosophique de l'homme qui se trouve derrière cela ? Et c'est ça qui expliquera tout. Voyez. Il n'y a pas de politique sans éthique. Donc il n'y a pas de politique sans une vision juste, vraie, de ce qu'est l'homme. Oui, alors si votre vision de l'homme est telle ou telle chose au point de vue politique, oui, au point de vue philosophique, vous avez une vision politique qui en est les conséquences, si vous voulez. Oui. Oui, je vous relis ça, parce que je crois que c'est quand même très important comme réflexion pour comprendre Platon. Hein. Je fus amené à louer la vraie philosophie et à proclamer que à sa lumière seule, on peut reconnaître où est la justice dans la vie publique et dans la vie privée. Donc, toute la question de Platon... Quelle est la recherche majeure de Platon dans sa philosophie ? C'est qu'est-ce que la justice ? Et ça va être tout le débat de la République. Qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est la question la plus forte de la philosophie. Oui. Toute la philosophie est là pour réfléchir sur ce qu'est la justice. Oui, tel que Platon le conçoit. Hein. Oui, parce qu'on va voir qu'est-ce que c'est que la justice pour lui. Et donc, il faut que le philosophe soit roi. Alors, on verra dans la République que cette question du philosophe gouvernant, c'est pour Platon le plus gros obstacle qu'il faut dépasser. Parce qu'il estime que c'est la chose la plus difficile à faire comprendre aux gens. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut bien comprendre hein, que la République de Platon, c'est son œuvre majeure. C'est la plus grande œuvre de Platon. C'est là qu'on a toute sa synthèse philosophique. Donc toute la conception de l'homme, hein, toute la conception que Platon a de l'homme, on la retrouve dans la République, je dirais, de manière parfaitement... manifester, oui, on verra ça tout à l'heure. Alors, ensuite, Platon raconte ses voyages en Sicile. Hein. Alors, je voudrais encore lire un passage de cette lettre pour vous faire comprendre qu'est-ce que Platon entend par la vraie philosophie, pour que vous voyez ce que ça veut dire et comment ça nous intéresse pour ce qu'on va voir après. Je souhaite que la Sicile, donc après, je vous lis, ça c'est 334C, la référence. Que la Sicile ne soit pas assujettie à des despotes, pas plus que toute autre ville, c'est du moins mon avis, mais aux lois. Car cela n'est bon ni pour ceux qui asservissent, ni pour ceux qui sont asservis, ni pour eux, ni pour leurs enfants, ni pour les enfants de leurs enfants. Donc il faut éviter la tyrannie, il faut retrouver la loi. Oui. Pour avoir la justice, il faut retrouver ce que c'est que la véritable loi. Et donc c'est la loi qui doit nous faire comprendre, voyez, ce que c'est que la véritable communauté politique. Donc la tyrannie, voyez, d'asservir quelqu'un par la force, voyez, hein, c'est ce qu'on verra dans la République avec la position de Trasimaque qui prône le droit du plus fort. C'est quelque chose qui aboutit toujours à des catastrophes. Hein. Ce n'est ni bon, ni pour ceux qui asservissent, ni pour ceux qui sont asservis. C'est même une entreprise absolument néfaste. Il n'y a que des caractères petits et serviles pour aimer à se jeter sur de pareils gains. Que des gens ignorant tout ce qui est juste et bon dans les choses divines et humaines, pour l'avenir et pour les circonstances présentes. Donc, si on accepte la tyrannie, c'est soit parce qu'on a une âme vile et servile, soit parce qu'on est ignorant. Mais un homme qui est vraiment homme ne peut pas accepter ça. De cela, j'ai entrepris de convaincre d'abord Dion, en second lieu Denis, et maintenant vous les troisièmes. Écoutez-moi pour l'amour de Zeus. Ensuite, regardez Denis et Dion. Le premier ne m'a pas cru et il vit encore, mais misérablement. Le second qui a suivi mes conseils est mort, mais avec honneur. Car à qui aspire au souverain bien pour lui-même et pour la cité, et ça c'est très important, à qui aspire au souverain bien pour lui-même et pour la cité, quoi qu'il ait à souffrir, il ne peut rien arriver que de juste et de beau. Nul d'entre nous n'est naturellement immortel. Et celui qui viendrait à l'être ne trouverait pas le bonheur comme se l'imaginent tant de gens. Il n'y a en effet ni vrai bien, ni vrai mal pour ce qui n'a point d'âme, mais seulement pour l'âme unie au corps ou séparée. Il faut croire vraiment à ces vieilles et saintes traditions qui nous révèlent l'immortalité de l'âme, l'existence de jugements et de terribles châtiments à subir quand elle sera affranchie de son corps. C'est pourquoi, regardons comme un moindre mal d'être victime de grands crimes ou de grandes injustices plutôt que de les commettre. Vous voyez, ça c'est la fameuse chose toujours de Socrate, hein. Il vaut mieux subir une injustice que la commettre. Alors, pourquoi Platon dit-il cela, hein? Je vais reprendre ça dans un instant. L'homme qui aspire aux richesses et qui a l'âme pauvre n'écoute pas ce langage. S'il l'entend, il pense qu'il doit en rire. Et sans pudeur, il se jette de tous côtés, comme une bête sauvage, sur tout ce qu'il peut manger ou boire, ou sur tout ce qui est capable de lui procurer jusqu'à satiété l'indigne et grossier plaisir que l'on appelle à tort l'amour. Aveugle, qui ne voit pas auquel de ses actions s'attache l'impiété, quel mal est toujours lié à chacun de ses crimes ? Impiété que nécessairement l'âme injuste traîne avec elle, et sur cette terre, et sous terre, dans toutes ses honteuses et misérables pérégrinations. C'est donc par ces discours, vous voyez, c'est donc par ces discours ou d'autres du même genre que je persuadais Dion. Donc, vous voyez un peu les sermons que Platon lui a fait. Alors, vous voyez, c'est très intéressant comme position. Et on va y revenir, vous voyez, dans la République, mais je crois que c'est très intéressant pour, vous voyez, montrer les deux aspects qui commandent toute la politique de Platon. On commence, voyez, par cette chose. Qu'est-ce qui commande toute la politique ? C'est la justice. Bon. Pour comprendre ce qu'est la justice, il faut regarder ce que c'est que la philosophie. La vraie philosophie nous aidera à comprendre ce que c'est que la justice. Pour ça, voyez, quelle est la vision qu'on a de l'homme qui est derrière ? Et Platon se repose complètement, hein, sur une tradition religieuse. Il dit, on doit croire ces saintes et vénérables traditions, hein, qui nous parlent de l'immortalité de l'âme. Donc, vous voyez, ce qui est derrière ça, hein, pour Platon, c'est toute la question du salut de l'âme au-delà de la mort. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui intervient en filigrane derrière la position de Platon ? Toute la conception qu'il a des rapports de l'âme et du corps. J'y reviendrai dans la République. Et que si Platon conçoit, vous voyez, que la vie que nous menons sur cette terre, en fait, en définitive, le jugement ultime qu'on doit avoir sur cette vie, c'est celui qui est au-delà de la mort, vous voyez, il y a toute une vision sur le rôle de la philosophie qui dépasse la cité. Et donc c'est tous les rapports qu'on verra chez Platon, hein, entre la contemplation, par où l'homme va retrouver son bonheur qu'il a perdu par une faute, et la politique, ce qui est extrêmement important à comprendre. Pour Platon, la politique est une application de la contemplation. Et vous voyez comment il invite à comprendre ça, hein. Il invite à le saisir à partir des traditions religieuses. Les traditions religieuses disent que l'homme est immortel. Donc, l'homme qui aspire à mener une vie juste et sainte pour cette vie, pour lui-même et pour les autres, en fait, il doit se référer au salut qui est le sien au-delà de la mort. Vous voyez, Platon dit ça aussi dans le Gorgias, hein, quand il compare la vie du sophiste à la vie du philosophe. Et c'est là-dessus que porte le discernement. Il dit, le sophiste, il cherche uniquement le pouvoir pour cette terre, donc l'efficacité. Et il mène une vie qui est uniquement, hein, du côté d'un artifice. Voyez, Platon dit, c'est comme, hein, il fait cette référence, il dit le sophiste qui est au niveau de la rhétorique, donc pour acquérir le pouvoir, il est comme le cuisinier qui met beaucoup d'épices dans sa cuisine pour masquer que les aliments sont avariés. Voyez, hein, Platon dit ça. Donc c'est uniquement une question d'apparence, voyez, mais c'est très actuel aussi, voyez. Je ne parle pas de la cuisine, je parle des hommes politiques, voyez, qui font une cuisine électorale, voyez. Et on produit des apparences, voyez, pour convaincre. Tandis que, dit Platon, l'homme philosophe, hein, vous voyez, Platon dit ça face à Gorgias, l'homme philosophe, il considère le salut au-delà de la mort. Voyez, c'est très intéressant. Et c'est là la noblesse de Platon, hein, c'est ce qu'il y a de si grand chez lui. Platon est un homme religieux et un homme qui a le sens de la contemplation. Et donc, l'homme ne peut pas comprendre uniquement sa vie, uniquement en fonction de cette terre. Vous voyez, c'est ce que Platon dit tout le temps. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Il dit ça dans le Phédon. C'est s'exercer à ce que l'âme retrouve cet état où elle était séparée du corps, où elle était enfin libre. Alors je vais y revenir, parce que pour le moment, je dis ça de manière très, très générale. Vous voyez, on verra, on entrera dans les détails avec la République. Oui, mais si toute la vie de l'homme, qui est commandée par la philosophie, se comprend en fonction du salut qui est au-delà de la mort, il y a un mythe dans le Gorgias qui montre ça très très bien, hein, a fortiori dans la politique, voyez, quel est le but de la politique, hein, c'est de vivre dans la justice pour libérer, voyez, l'âme et la réorienter vers le séjour des dieux. C'est pour ça que toute la politique pour Platon va être commandée par l'éducation. Et c'est pour ça que c'est le philosophe qui doit gouverner. Parce que seul il a le sens du bien ultime auquel tous les hommes doivent parvenir. Et donc, les hommes qui sont dans la cité doivent vivre dans la justice, c'est-à-dire chacun doit être à sa place, à la place que le Dieu lui a donnée, en fonction de son corps, j'y reviendrai tout à l'heure. Et vivant dans la justice, par là, il peut finalement se retourner, retrouver ce bonheur premier qu'il a perdu. Vous voyez, il y a, autrement dit, dans Platon, il y a un ordre qui est très intéressant à saisir. Oui. Ce qui est premier, c'est la philosophie. La philosophie est tout entière commandée par la théoria, pour Platon, c'est-à-dire la contemplation. La politique, c'est une application de la contemplation au domaine de la vie en commun. Oui. La justice, c'est appliquer ce que le philosophe a contemplé du bien en soi au niveau de la communauté des hommes. Donc la justice, c'est donc un ordre que le philosophe qui contemple le bien en soi réalise parmi ses contemporains, oui, parmi ceux qui sont soumis à son pouvoir. Et troisième aspect, la morale personnelle dépend de la politique. Oui. Hein, si vous avez vu, c'est très intéressant cette petite remarque, je ne l'ai pas soulevée en passant, hein, mais c'est dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Hein, l'ordre que dit Platon est très fort, je trouve. Hein. Oui. Je fus alors irrésistiblement amené à louer la vraie philosophie et à proclamer que, à sa lumière seule, on peut reconnaître où est la justice dans la vie publique, premièrement, et dans la vie privée, deuxièmement. Oui. La vie personnelle, hein, l'éthique personnelle pour Platon, elle est dépendante de la vision politique. Hein. Platon le dit textuellement dans la République. Il dit « Je ne cherche pas à ce que chacun soit heureux, mais à ce que la cité dans son ensemble le soit. » Et chaque individu est heureux dans la mesure où il est à sa place dans le tout qu'est la cité. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que l'homme, la personne pour Platon ? C'est un individu relatif au tout. Vous voyez, il est une partie d'un tout. Et il est heureux en tant que partie, vous voyez, en tant qu'il est relatif au tout, donc à sa place dans le tout, et qu'il ne vient pas troubler l'ordre du tout. Cet ordre étant un ordre de justice instauré par le philosophe en fonction de la contemplation qu'il a du bien en soi. Et c'est très intéressant parce que c'est très fort comme vision, c'est très séduisant. Et il y a une espèce d'ordre idéal, vous voyez, et chacun vivrait dans la justice en fonction du lieu où il se trouve. Vous voyez. Il y a un donné naturel qu'on doit respecter. Alors je vais détailler ça dans la République, hein, parce que c'est très on va voir la naissance de la cité selon Platon. Et vous voyez, il y a cet ordre qu'il faut comprendre chez Platon, qui est très important à saisir. Vous voyez. La contemplation, la théoria, la politique, qui est au niveau de la justice, et la justice est une application de la contemplation à la cité, et la morale personnelle, l'éthique personnelle, vous voyez, qui intéresse Platon de manière tout à fait secondaire. Alors, on verra là-dedans quelle est la place de la famille, on verra qu'il n'y a pas de place de la famille pour Platon. La famille disparaît. C'est pour ça que Platon prône, on le lira aussi, le communisme des femmes et des enfants. Parce qu'il faut que chacun soit à sa place. Et que nul ne s'approprie quelque chose. Parce qu'alors il risquerait de vouloir avoir son intérêt particulier au lieu de l'intérêt du tout, de tous. Il y a un communisme absolu chez Platon. Donc c'est intéressant à voir, cette orientation. On essaiera de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui commande la vision de Platon? Pourquoi est-ce qu'il aboutit à cette vision? Ah, vous voyez, je voudrais retenir ces deux aspects dans cette lettre 7. Je crois qu'ils sont très instructifs. D'une part, tout est commandé par la justice, qui dépend de la philosophie. D'autre part, cette justice, elle est commandée par une vision religieuse de l'homme qui atteint son salut au-delà de la mort. Et ça, c'est l'aspect des traditions religieuses, si vous voulez, que Platon, vous voyez, purifie, hein, à sa manière, en les intégrant dans sa philosophie pour en faire une véritable doctrine philosophique, hein, ce qu'on va voir après. Alors, je vais maintenant tout de suite prendre la République, je vais vous lire quelques textes aussi, puis on essaiera de réfléchir à partir de là, hein, parce que je crois que c'est quand même un très grand texte. Alors voyez, hein, l'ordre de la République est très intéressant aussi à voir, ça je vous donne de manière très schématique, puis je m'arrêterai quelques minutes. Donc, je vous disais tout à l'heure, hein, que ce qui intéresse Platon dans la République... La question, si vous voulez, qui est en filigrane dans toute la République, c'est qu'est-ce que la justice ? Donc c'est un dialogue sur la justice. Donc comment Platon va-t-il essayer de résoudre cela ? Donc tout commence, ça je passerai très vite dessus, je m'y arrêterai même pas, je vous mentionne simplement, tout commence, vous voyez, au livre 1 et le début du livre 2 par des opinions sur la justice. Au dire des hommes, qu'est-ce que la justice ? Alors, Platon fait ça de manière très très artistique, je trouve que c'est très très fort, hein, comme organisation, si vous voulez, de son texte. Hein. D'abord, l'opinion de l'homme religieux. Alors, l'homme religieux, c'est un vieillard qui montre que la justice, c'est rendre à chacun ce qu'on lui doit. Donc à Dieu, rendre les sacrifices qu'on doit lui rendre, aux hommes, tout ce qui leur appartient. Vous voyez, ne rien devoir à personne, c'est ça la justice. Vous voyez, c'est l'opinion courante, si vous voulez, d'un homme religieux. Et c'est très fort, et Platon le met en scène, en train de faire un sacrifice religieux. Quand Socrate arrive et rencontre ce vieillard, ce vieillard est en train de faire un sacrifice au dieu de sa maison. Donc il s'interrompt et Socrate lui dit, mais voilà, tu dois être heureux d'arriver au terme de ta vie. Alors l'autre lui dit, oui, je suis heureux parce que j'ai vécu dans la justice tout au long de ma vie. Vous voyez, c'est l'opinion commune. Ensuite, l'opinion des poètes. Que disent les poètes sur la justice? Et puis en dernier lieu, l'opinion des sophistes. Alors, le sophiste par excellence sur ce problème, c'est Thrasymaque, qui défend la thèse que la justice, c'est le droit du plus fort. Vous voyez, c'est très ancien. Et Thrasymaque dit, on a intérêt à agir injustement et il est désavantageux d'agir dans la justice, parce que quand on est dans la justice, on se fait toujours rouler. Donc autant que chacun en profite le plus qu'il peut. C'est le droit du plus fort. Donc, vous voyez, ensuite, au livre 2, vous voyez, on a deux positions, Glaucon et Adimante, qui reprennent cette position de Thrasymaque et qui essayent de voir, vaut-il mieux agir dans la justice ou bien dans l'injustice. Vous voyez, on met en parallèle ces deux thèses. Et c'est face à cela que Socrate va répondre, qu'est-ce que la justice? Alors je vais vous lire quelques extraits de cette réponse de Socrate. Socrate qui répond, qu'est-ce que la justice? Comment pouvons-nous découvrir le problème de la justice? Et pour cela, on va voir comment Socrate fait. Pour répondre à cette question, il va voir quelle est l'origine de la cité. Donc vous voyez, c'est le sujet qui nous intéresse. Pourquoi les hommes se sont-ils mis à vivre ensemble? Pourquoi existe-t-il une communauté politique? Quelle est l'origine de la cité? Et comment la justice intervient-elle dans cette communauté politique pour la régler, pour l'ordonner? Et quel est le lien? Alors on verra tout ce que Socrate fait comme lien entre la cité, l'homme et la justice. Et puis après, dans la suite du dialogue, Platon montre les conditions de réalisation de cette cité juste. Donc pour réaliser ça, cet idéal, qui va faire aboutir, vous voyez, à la justice que tous les hommes désirent vivre, il faut réaliser certaines choses. Donc, quelles sont les trois conditions pour cela? Il faut qu'il y ait le communisme des femmes et des enfants, et de tous les biens, bien sûr. Il faut que les femmes aient la même éducation que les hommes. Il faut que le philosophe soit roi. Ensuite, Platon détaille quelle est l'éducation du philosophe. Comment doit-on éduquer le philosophe pour qu'il puisse gouverner en vérité? Oui, je citerai quelques textes qui me semblent les plus intéressants dans Platon, et puis on réfléchira à partir de là pour essayer de caractériser sa position. Oui, une topique historique, c'est pour nous aider à poser des problèmes, donc ça va vous aider à réfléchir. C'est une préparation par rapport à une réflexion philosophique. Donc je reprends dans quelques minutes. tube de Platon, vous voyez. Je vais essayer d'attaquer cette lecture de la République en essayant de vous faire saisir ce qui me semble être le plus caractéristique, vous voyez, et le plus important pour nous. Donc vous voyez toutes les questions que ça peut nous poser. Alors je passe sur toutes les opinions, parce que vous voyez, je crois que c'est un peu secondaire, c'est là pour mettre en lumière, enfin, ce serait intéressant à étudier de près si on avait vraiment le temps, vous voyez, mais j'essaie de garder l'essentiel. Donc je vous lis d'abord un passage qui me semble intéressant, où vous voyez toute la question que Socrate va poser, et tout ce qu'il va développer dans tout le reste de la République, donc c'est la fin du livre premier, après les opinions de l'homme religieux, des poètes, du sophiste. Socrate interroge pour mettre en lumière le lien entre la justice et l'âme. C'est la première chose qui me semble intéressante à voir. Loin de tout ce que disent les poètes et le sophiste pour qui la justice est purement conventionnelle, vous voyez, c'est uniquement une question de circonstance. Vous voyez. Dans telle circonstance, il vaut mieux être juste parce que ça me sera avantageux. Dans telle autre, non. Socrate va montrer qu'il y a une nécessité à vivre dans la justice. Et c'est ça qui est important à voir. Alors je vous lis ce petit passage, c'est 353e. Examinons ceci, ou 353d et e. Examinons maintenant ceci. L'âme n'a-t-elle pas une fonction ? Ah, vous voyez, c'est très intéressant, c'est pas fonction, hein. L'âme n'a-t-elle pas une œuvre, ergon ? Donc, n'y a-t-il pas une œuvre de l'âme ? Oui. Je souligne ça parce que c'est une chose que Aristote reprend dans l'Éthique à Nicomaque quand il cherche à voir qu'est-ce que c'est que le bonheur de l'homme. Il dit, n'y a-t-il pas dans l'homme une œuvre propre qui, sans laquelle il n'est pas heureux ? Alors ici, n'y a-t-il pas une œuvre propre de l'âme sans laquelle il ne peut pas être dans la justice ? Oui, qu'est-ce que cherche Platon à travers cela ? C'est d'essayer de voir le fondement naturel de la justice. Et c'est ça la question philosophique qui est intéressante. Est-ce que être juste, c'est quelque chose qui est naturel pour l'homme ? Donc est-ce que c'est dans la ligne de ce qu'il doit être ? Par conséquent, ça se retrouvera aussi au niveau de la cité. On va voir ce lien entre l'individu et la cité. Ou bien, est-ce que c'est purement conventionnel ? Donc il vaut mieux uniquement chercher son intérêt et le pouvoir en fonction des circonstances. Donc la politique repose-t-elle sur un fondement naturel ? Et la justice a-t-elle quelque chose à voir de naturel avec l'âme ? Ou est-ce purement conventionnel en fonction des circonstances ? C'est ça la question. Et elle est très juste, elle est très forte, cette question. Alors oui, pour Platon, le fondement de la cité, ce sera donc bien la justice de l'âme. Si mon âme est juste, et que tous les citoyens ont une âme juste, la cité sera juste. La question d'Aristote sera autre. Donc c'est pour ça que je souligne bien la recherche de Platon. Il faut la voir, et il faut voir quelle est la question qui est derrière. Et puis, on essaiera de voir ensuite ce qu'Aristote, lui, prend comme point de départ. Donc, l'âme n'a-t-elle pas une œuvre qu'aucune autre chose au monde ne peut remplir ? Alors, c'est-à-dire diriger, commander, délibérer et toutes les choses du même genre. Ah oui, c'est toute la conception que Platon a de l'âme. L'âme, dit Platon, elle est comme un pilote dans son navire. Donc, elle dirige, elle commande au vivant qu'est l'homme. Oui, on essaiera de revenir là-dessus aussi. A-t-on le droit d'attribuer ses fonctions à autre chose qu'à l'âme, et ne faut-il pas dire qu'elles lui sont propres ? On ne peut les attribuer qu'à l'âme. Et la vie, à son tour, ne la reconnaîtrons-nous pas comme une fonction, comme une œuvre de l'âme ? Si, assurément. Ne soutiendrons-nous pas que l'âme aussi a sa vertu particulière ? Donc, vous voyez, qu'est-ce que Platon fait ? L'âme a d'abord une œuvre. Cette œuvre, c'est diriger. Ensuite, la vie lui appartient. La vie appartient par soi à l'âme. Oui, ça, c'est toute la position de Platon, qu'on trouve notamment dans le Phédon. Pour Platon, l'âme est tout de suite vue comme immortelle parce que la vie lui appartient de manière nécessaire. Je n'entre pas là-dedans, ce serait une autre question, mais c'est intéressant. Et ensuite, quelle est la vertu propre de l'âme ? Donc, oui, la vertu en grec, c'est arrêter. Donc, son excellence. Donc, ne soutiendrons-nous pas que l'âme aussi a sa vertu particulière ? Vous voyez, c'est a une certaine vertu, arrêtetina, une certaine vertu de l'âme. Nous le soutiendrons. Est-ce que l'âme s'acquittera jamais bien de ses fonctions, Trasimaque, si elle est privée de la vertu qui lui est propre, ou est-ce impossible ? C'est impossible. C'est donc une nécessité qu'une âme méchante gouverne et dirige mal,
que la bonne, au contraire, s'acquitte bien de tout cela. C'est une nécessité. Ne sommes-nous pas tombés d'accord que la justice est une vertu et l'injustice un vice de l'âme? Vous voyez, que fait Platon? Il cherche à montrer que le lien entre l'âme et la justice est nécessaire parce que l'âme exige une vertu, or la justice, c'est une vertu, et pour Platon, ça va mettre la vertu par excellence. Autrement dit, je dois acquérir une excellence, une vertu qui est la justice. Ce sans quoi mon âme ne peut pas accomplir bien l'œuvre qui est la sienne, qui est de diriger, de commander. Nous en sommes tombés d'accord en effet. Par conséquent, l'âme juste et l'homme juste vivront bien, l'injuste mal. C'est évident, dit-il, d'après ton raisonnement. Mais à coup sûr, celui qui vit bien est heureux et fortuné. Celui qui vit mal, le contraire. Sans doute. Ainsi, l'homme juste est heureux, l'injuste malheureux. Soit, dit-il. Mais il n'est pas avantageux d'être malheureux, et il l'est d'être heureux. Sans doute. Vous voyez, Thrasymaque n'est là que comme faire valoir. Oui, il est complètement battu à plate couture, lui qui... Il n'est donc pas vrai, divin Thrasymaque, vous voyez, l'ironie, que l'injustice soit plus avantageuse que la justice. Fais de cela, Socrate, dit-il, ton festin des bindidis, donc allusion religieuse. C'est toi qui me l'as servi, Thrasymaque, répondis-je, en te rendant traitable et en renonçant à ta rudesse. Il est vrai que le régal a été maigre, mais c'est ma faute et non la tienne. Il me semble que j'ai fait comme les gourmands qui agrippent et goûtent tous les plats à mesure qu'on les sert, sans avoir mangé suffisamment du précédent. Moi aussi, avant d'avoir trouvé ce que nous cherchions en premier lieu, à savoir ce qu'est la justice, j'ai lâché ce sujet pour me jeter dans l'examen de ce point particulier, si la justice est vice et ignorance, ou sagesse et vertu. Puis un autre propos étant survenu, à savoir si l'injustice est plus avantageuse que la justice, je n'ai pu m'empêcher de quitter le sujet précédent pour celui-ci. En sorte qu'à présent, le résultat de la discussion, c'est que je ne sais rien. Car du moment que je ne sais pas ce qu'est la justice, je saurai encore moins si c'est ou non une vertu, et si celui qui la possède est heureux ou malheureux. Vous voyez, je passe que, vous voyez, c'est intéressant, mais c'est ce que fait Socrate. On commence par regarder du côté de la justice, on regarde si elle est avantageuse. Est-ce qu'elle est avantageuse et est-ce qu'elle est bonne pour l'homme? Si on accorde que la justice est une vertu, elle est donc bonne pour l'âme, parce qu'il y a un lien de nécessité. L'âme doit acquérir sa vertu propre pour agir bien dans l'œuvre qui est la sienne, qui est de diriger. Oui. Si je dois diriger les autres, il faut que j'ai une vertu, une excellence propre pour diriger. Oui. La vertu, c'est une qualité acquise qui va venir me permettre d'être pleinement ce que je dois être. Donc, toute la question, vous voyez, que Socrate, vous voyez, c'est pour poser le problème. Ce qu'on doit chercher par-dessus tout, si la justice est la vertu par excellence de l'âme, c'est qu'est-ce que c'est que la justice? C'est ça qui va commander toute la politique. Si l'âme vit dans la justice, elle dirigera correctement sa vie propre, vous voyez, la vie propre de l'homme dont elle est l'âme, et puis la vie des autres, si on est gouvernant. Alors là, évidemment, ça fait allusion à des quantités de dialogues de Platon. Je n'ai pas le temps d'y entrer, mais notamment le premier Alcibiade, quand Platon montrait cela. Tu prétends gouverner les autres, mon cher Alcibiade, et tu ne sais pas ce qui est bon pour l'homme. Commence par chercher qui tu es, connais-toi toi-même, pratique la vertu, vois vraiment qui tu es, et alors tu pourras songer à diriger les autres, à acquérir le pouvoir politique. Et c'est très intéressant comme réflexion, et c'est juste. Alors, maintenant, je vais donc entrer dans cette recherche, telle que Socrate, donc Platon, en se cachant derrière Socrate, va présenter ce que c'est que la justice. Alors là, il y a vraiment des choses extrêmement connues de Platon et qu'il faut vraiment lire et essayer d'analyser philosophiquement. Donc je vais ne pas hésiter à lire ces quelques textes qui me semblent importants et qui commandent, en fait, qui impliquent une conception philosophique extrêmement claire. Donc c'est intéressant d'essayer de la dégager, parce que Platon ne la dit pas pour elle-même. Alors Socrate dit ceci, donc je suis au livre 2, 368a. Donc, alors après ce que Socrate va dire maintenant, c'est après les réflexions de Glaucon et d'Adimante. Donc, vous voyez, après les deux positions qui résument, si vous voulez, le dilemme devant lequel on se trouve. La justice, c'est un moindre mal. C'est la position de Glaucon. Vaut mieux vivre dans la justice, tout compte fait. Et l'autre, il vaut mieux chercher ce qui est avantageux. Et donc Socrate va répondre en disant ça reste du côté des propriétés, il faut chercher ce qu'est la justice. J'ai toujours admiré le naturel de Glaucon et d'Adimante. Mais en cette circonstance, je fus vraiment ravi de leur discours. Et je leur dis, ô fils de cet homme-là, ce n'est pas sans raison que l'amant de Glaucon a commencé ainsi l'élégie où il célèbre vos prouesses à la bataille de Mégare. Enfant d'Aristone, divine race d'un illustre héros. Il me semble, mes amis, que cet éloge vous convient parfaitement. Il faut qu'il y ait en vous quelque chose de vraiment divin, puisque vous n'êtes pas convaincu que l'injustice vaut mieux que la justice, après avoir parlé sur ce sujet avec tant de force. Vous voyez, tout compte fait, hein, vous êtes d'accord qu'il vaut mieux agir dans la justice. Donc il y a quelque chose qui reste vrai en vous. Alors, Socrate poursuit en disant ceci. Glaucon et les autres me conjuraient d'employer toutes mes ressources, donc à définir ce que c'est que la justice, et de ne pas laisser tomber la discussion sans avoir essayé de découvrir la nature du juste et de l'injuste, et la vérité sur les avantages de l'un et de l'autre. Alors une idée me vint à l'esprit et je leur dis, « La recherche que nous entreprenons est très épineuse et demande à mon avis une vue pénétrante. Puisque cette pénétration nous fait défaut, voici, dis-je, comment je crois qu'il faut mener notre enquête. Si l'on donnait à lire de loin à des gens qui ont la vue basse, des lettres écrites en petits caractères, et que l'un d'eux s'avisa que les mêmes lettres se trouvent écrites ailleurs en caractères plus gros sur un tableau plus grand, ça leur serait, je présume, une belle chance de commencer par lire les grosses lettres et d'examiner ensuite les petites pour voir si ce sont les mêmes. » Vous voyez ? Hypothèse de recherche de Socrate. Vous voyez, ça, c'est très intéressant, j'y reviendrai après. Hein. Mais c'est très intéressant comme, vous voyez, comme méthode, comme manière dont Socrate et Platon va chercher. Hein. On doit regarder de l'individu. Pour comprendre l'individu, on doit d'abord regarder la cité. Parce que la cité est plus grande que l'individu. Donc, oui. Alors, c'est très bien, répondit Adimante. Mais quel rapport vois-tu là, Socrate, avec la question de la justice ? Je vais te le dire, répliquai-je. Si nous admettons une justice pour l'individu, nous en admettons une aussi pour la cité tout entière. Certes. Or, la cité est plus grande que l'individu. Elle est plus grande. Par conséquent, il pourrait bien y avoir une justice plus grande dans le cadre plus grand, et par là, plus facile à déchiffrer. Si donc vous y consentez, nous examinerons d'abord quelle est la nature de la justice dans la cité, dans les cités, ensuite nous l'étudierons dans l'individu, en tâchant de retrouver la ressemblance de la grande dans les traits de la petite. « C'est à mon avis fort bien dit, » répondit-il. « Eh bien, » repris-je, « si nous considérions, alors, c'est pas en imagination, si nous considérions par la pensée la formation d'une cité, ne verrions-nous pas aussi la justice s'y former, ainsi que l'injustice ?»« Il se pourrait, » dit-il. « Cela fait, ne pourrions-nous espérer découvrir plus facilement ce que nous cherchons, beaucoup plus facilement ?» Vous semble-t-il qu'il faille essayer de mener cette recherche à bonne fin ? Ce n'est pas une petite entreprise, à mon avis. Réfléchissez-y. C'est tout réfléchi, dit Adimante. Fais comme tu viens de dire. Vous voyez, c'est très intéressant, parce qu'ici, du point de vue de la méthode, il y a deux choses qu'il faut bien relever. Premièrement, alors, vous voyez, comme hypothèse de recherche, Platon dit, un individu, c'est trop difficile à comprendre. Et la justice dans l'individu. Vous voyez, c'est tout l'aspect, vous voyez, l'opposition entre l'aspect individuel et l'aspect communautaire qu'on voit apparaître ici. Pour Platon, comment comprendre le lien entre les deux ? La cité est plus grande que l'individu. Platon ne dit pas autre chose pour le moment. Il faudrait nous poser la question, vous voyez, qu'est-ce qui constitue des individus dans une cité ? Et c'est la deuxième question de Platon. Si, pour comprendre l'individu, donc ce qu'est la justice dans l'âme, la justice de l'âme, il faut regarder dans quelque chose qui est plus grand, donc plus facile à comprendre, pour Platon, hein, la cité... Donc la justice dans la cité, il faut pour comprendre ce passage de l'un à l'autre essayer de voir quel est le lien entre les individus et la cité. Qu'est-ce qui constitue des individus en une cité ? Et qu'est-ce qui m'autorise de passer de l'un à l'autre ? De l'individu jusqu'à la cité, de la cité jusqu'à l'individu. Parce que, vous voyez, si pour Platon, la justice est la même dans l'individu et dans la cité, comment comprendre le rapport entre les deux ? Et quelle est l'origine de cela ? Pourquoi Platon dit-il cela ? Pourquoi dit-il que c'est la même chose ? Ça ne va pas de soi du tout dire ça. Je fais un aparté tout de suite pour vous poser le problème. Aristote posera la même question, mais du côté de la prudence. Il dira, est-ce que la prudence de l'individu est la même que la prudence du citoyen comme citoyen ? Vous voyez ? Autrement dit, les rapports entre individu et cité sont-ils au niveau de la justice? Première question. Sont-ils au niveau de la prudence? Ce sera la position d'Aristote. Donc vous voyez, rapport entre l'individu, je mets individu au sens large, mettons le citoyen comme membre d'une cité, justement c'est plus un individu au sens strict, et la cité. C'est la question qu'on doit voir, vous voyez. Quelle est la vertu dominante? Pour Platon, c'est la justice. Donc, si mon âme est dans la justice, la cité sera juste. Et la cité étant plus grande, pour connaître ce qu'est la justice, je dois voir la justice dans la cité pour ensuite la comprendre dans l'individu. Alors, vous voyez, pour saisir ça, il faut voir quel est le lien entre l'individu et la cité. Pour ça, Platon vient à cette question, quelle est l'origine de la cité? Et c'est ça qui va nous intéresser spécialement. Comment se fait-il que les hommes vivent dans une communauté? De telle sorte qu'on puisse dire que si chacun est juste, la cité sera juste. Qu'est-ce qui préside à la formation de la communauté? C'est pas si simple de voir ça. Oui, et je crois que c'est très important à comprendre. C'est le problème qu'on doit étudier. Qu'est-ce qui fait que nous vivons dans une vraie communauté politique? Qu'est-ce qui nous unit? Au nom de quoi y a-t-il une vraie coopération politique? Est-ce que c'est... quelle est la source de cela? Et selon la réponse qu'on donne à cela, c'est soit la justice, telle que Platon va la concevoir, qui va tout commander, soit la prudence. Tout sera là, Le débat, il est entre prudence et justice, en fait. Alors, on verra, je donne ça comme hypothèse, vous voyez, de recherche, puis ça va se préciser au fur et à mesure que j'avance. Alors, vous voyez, donc, vous voyez, c'est la première chose. Retenez cette question des petites lettres et des grandes lettres, parce qu'on va retrouver cela à la fin du livre 4, quand Platon va, de la cité, revenir à l'individu. Et ici, on va voir comment, de l'individu, je remonte jusqu'à la cité. Comment les individus se forment-ils dans une cité? Ensuite, ayant vu ce que c'est que la cité et la justice dans la cité, on verra dans cette lumière ce que c'est que la justice dans l'individu. Et là, ça impliquera toute la conception que Platon a des rapports de l'âme et du corps. Donc ça, on verra ça progressivement. Et là, on tient, si vous voulez, la pensée de Platon dans ce qu'elle a de plus fondamental. Après, les choses qui viennent après sont des conséquences, si vous voulez. Ça va de soi s'il admet ça. Donc on verra ça. Alors, selon moi, repris, j'en vais l'opinion de Platon, selon moi. Ah oui, aussi, j'insiste aussi là-dessus, vous voyez, Platon dit bien, si nous examinons par la pensée l'origine de la cité, logo, par le logos, donc cherchons, la recherche philosophique, c'est de chercher quelle est l'origine pour laquelle les individus sont en cité, en communauté politique. C'est ça la recherche philosophique première, si vous voulez. Selon moi, la cité doit sa naissance, donc doit son origine, à l'impuissance où l'individu se trouve de se suffire à lui-même et au besoin qu'il éprouve de mille choses. Vois-tu quelque autre cause à l'origine de la cité? Aucune, dit-il. Oui, c'est net, je dirais, on ne peut pas être plus net. Si nous sommes en communauté politique, donc, l'origine de la cité, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Vous voyez, la communauté politique pour Platon repose en premier lieu sur les besoins de chacun des individus. Vous voyez, il faut bien noter tous ces points. L'individu a des besoins. Qu'est-ce que c'est que ce besoin? On va voir, Platon va les détailler. Et c'est à cause de cela que nous devons vivre dans une communauté. Parce que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Vous voyez, toute la question très importante qu'on retrouvera chez Aristote, de l'autarkeia, de l'autarcie. Puis-je me suffire à moi-même? Ou bien est-ce que j'ai besoin des autres? Et oui, à quel niveau est-ce que j'ai besoin des autres? Pour Platon, cette communauté politique repose sur des besoins que je ne peux pas satisfaire seul. Je continue parce que c'est important à voir. La cité doit sa naissance à l'impuissance où l'individu se trouve de se suffire à lui-même et au besoin qu'il éprouve de mille choses. Vois-tu quelque autre cause à l'origine de l'État? Aucune, dit-il. Dès lors, un homme prend un autre homme avec lui en vue de tels besoins, puis un autre en vue de tel autre besoin, et la multiplicité des besoins assemble dans la même résidence plusieurs hommes qui s'associent pour s'entraider. C'est à cette société que nous avons donné le nom de cité, polis. Vous voyez, c'est xunoikia, littéralement cette maison commune. Oikia, c'est la maison pour les Grecs, hein, donc xun, ensemble. Vous voyez, on vit ensemble. Donc on est dans la même maison, vous voyez, on est sur le même bateau. Vous voyez, prenez les métaphores que vous voulez. Hein. Nous sommes embarqués dans la même galère, vous voyez, pendant cette session. Donc, vous voyez, donc autant nous supporter, vous voyez. Chacun a des besoins, vous voyez. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Vous voyez. Je vais y revenir parce que je crois que c'est très important à comprendre. Et considérez-vous la communauté politique ou familiale ou religieuse comme un lieu où chacun trouve ce dont il a besoin, ou bien c'est autre chose. Donc, et ce qui commande pour Platon la mise en commun politique, donc hein, la xenoikia, donc et littéralement la vie commune, hein, le fait de vivre ensemble. Et Aristote parlera de koinonia, de mise en commun. Ici, c'est le fait de vivre, vous voyez, c'est très intéressant, on prend ça du côté descriptif. Qu'est-ce qui caractérise les hommes qui sont dans une communauté? C'est qu'ils vivent ensemble. Ils sont dans la même ville, ils sont dans le même village, ils sont dans la même famille. C'est descriptif, ça, vous voyez. Alors, pourquoi vivent-ils ensemble? Parce qu'ils ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes par eux seuls, vous voyez. Ils ont besoin des autres. Donc, ce qui fait l'unité, c'est le besoin. J'ai besoin de toi. Ah oui, donc nous avons donné à cette société, à cette vie commune, le nom de cité. Est-ce bien cela? Exactement. Mais quand un homme donne et reçoit, il ne fait cet échange parce qu'il y voit son intérêt, sans doute. Eh bien donc, repris-je, jetons par la pensée les fondements d'une cité, ces fondements seront naturellement nos besoins. Oui, donc le fondement naturel de la cité, c'est le besoin. Alors quels sont ces besoins? Et c'est ce que Platon va regarder. Alors il y a pour lui quatre besoins fondamentaux de l'homme. Et puis ensuite, les autres vont venir se greffer là-dessus. Le premier et le plus important de tous est la nourriture, d'où dépend la conservation de notre être et de notre vie. Oui, premier besoin, la nourriture. Le second est celui du logement. Le troisième, celui du vêtement et de ce qui s'y rapporte. Vous voyez ? Le logement, le vêtement. Et alors, là, je vous renvoie au Protagoras de Platon. Quand Platon, dans le Protagoras, cherche quelle est l'origine de l'art. Et il montre que les hommes... Vous voyez, c'est tout le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, hein, que Platon développe beaucoup dans Protagoras. Et si les hommes ont l'art, c'est parce que la nature les a dépourvus. C'est l'être le plus fragile de tous les êtres vivants pour Platon, l'homme. Donc, vous voyez, le mythe est celui-ci, Épiméthée est chargé par les dieux de distribuer les vivres. Et donc, c'est l'intendant de Zeus. Hein, il est magasinier en chef, si vous voulez. Hein. Donc, il donne à chacune des créatures ce dont elle a besoin pour vivre. Alors, à l'un des sabots et des dents puissantes, à l'autre des griffes et une fourrure pour se défendre contre le froid, etc. Et alors, arrive le tour de l'homme. Et malheur, hein, Épiméthée a beau retourner tout ce qu'il y a, il n'y a plus rien. Donc, alors, Platon dit, l'homme est né, hein, comme l'être le plus nu de tous les vivants, incapable de se défendre. Donc, Épiméthée dit à son frère Prométhée, hein, vole chez Zeus le feu et l'art, pour que l'homme puisse, voyez, grâce à l'art, voyez, faire tout ce dont il a besoin, voyez, nourriture, logement, vêtements. Et c'est très intéressant que Platon fait apparaître du côté des besoins fondamentaux de l'homme, ce sont des besoins naturels, mais tout de suite toute la dimension artistique. Oui, je note tout cela, hein, les points qui semblent intéressants chez Platon. Et tout repose sur le besoin. Donc si on s'unit, c'est à cause d'une efficacité, c'est pour résoudre efficacement les besoins qui sont les nôtres, et cela on le résout grâce à l'art. Et donc ce qu'on fait intervenir dans la communauté politique, ce n'est pas la personne elle-même, c'est sa compétence artistique. Je suis au niveau de la cité par ma compétence. Si je suis artisan, je suis capable par exemple de faire un vêtement, eh bien je fais partie de la cité parce que je fais quelque chose qui est utile à tout le monde. Oui, donc on entre dans une communauté pour Platon à cause d'un besoin qui est un besoin naturel. Je vais y revenir aussi parce que vous voyez, ce sont des besoins qui sont liés au corps. Donc la cité reposant sur des besoins qui viennent du corps, nous sommes dans la cité à cause du corps pour Platon. Ce qui pour lui est très une déchéance. Hein, parce que nous sommes unis à un corps à cause d'une punition. Donc la cité, qui doit vivre dans la justice, c'est le pis-aller. On doit se rééduquer dans la justice pour retrouver un état de liberté. À cause de notre corps, nous sommes tombés bien bas. Oui, nous avons une déchéance extraordinaire. Nous sommes rivés à la nourriture, au logement et aux vêtements. Oui, ce serait tellement plus simple si on avait juste une âme spirituelle. Là, au moins, on n'aurait pas besoin du voisin. Oui. Donc, le corps nous assujettit à des quantités de besoins. Et pour les résoudre, il faut une efficacité commune qui se réalise grâce à l'art. Oui, c'est, je ne fais que commenter, vous voyez, mais c'est très fort comme remarque. Hein. Ah oui, et puis je vous ai dit ça, hein, que ça part d'un point de vue descriptif. Ce qui caractérise la cité, c'est qu'on vit ensemble. On est ensemble dans la même pièce, on est ensemble dans la même ville. Alors, pourquoi est-on ensemble ? Pour résoudre des besoins avec efficacité grâce à une dimension artistique. Oui, vous voyez, c'est d'ordre descriptif. Hein, je reviendrai après, parce qu'après j'essaierai de porter un jugement là-dessus. Vous voyez, à quel niveau ça se situe ? Posez-vous la question. Et à quel niveau de l'homme est-on ? Donc le deuxième est celui du logement, le troisième celui du vêtement et de ce qui s'y rapporte. C'est bien cela. Mais voyons, repris-je, comment l'État suffira-t-il à fournir tant de choses ? Ne faudra-t-il pas que l'un soit laboureur, un autre maçon, un autre tisserand ? Donc oui, le laboureur pour fournir le blé, hein, le maçon pour construire la maison, le tisserand pour fournir le vêtement. Ajouterons-nous encore un cordonnier ou quelque autre artisan pour les besoins du corps ? Certainement. L'État est donc essentiellement... La cité, hein, j'aime pas la traduction État, c'est polis en grec, hein, donc la cité. La cité est donc essentiellement composée de 4 ou 5 personnes. Vous voyez, hein, les 4 qui constituent la cité fondamentalement, hein, c'est le laboureur, le maçon, le tisserand et le cordonnier. Alors on ne sait pas pourquoi le cordonnier tout d'un coup a une telle importance, vous voyez. Hein. Vous voyez, hein, et Platon dit, vous voyez, le cordonnier ou quelque autre artisan pour les besoins du corps. Vous voyez, il y a derrière tout ça, ce qui est intéressant, hein, toute une vision du corps humain. Selon les besoins du corps que vous estimez fondamentaux, vous avez la cité fondamentale. Vous voyez, quel est l'élément de la cité pour Platon ? C'est l'individu qui s'unit à un autre à cause des besoins, par nécessité. Et il s'unit au niveau artistique pour résoudre ses besoins. Vous voyez, la communauté de base, hein, pour Platon, hein, c'est la communauté de ceux qui vont se fournir mutuellement ce dont ils ont besoin. Mais quoi ? Faut-il que chacune d'elles fasse le métier qui lui est propre ? Pour toute la communauté ? Par exemple, que le laboureur fournisse à lui seul les vivres pour 4, et mettre 4 fois plus de temps et de peine à préparer le blé pour en faire part aux autres ? Ou bien que sans s'inquiéter d'eux, il produise pour lui seul le quart seulement de ce blé, dans un quart de son temps, et consacre les 3 autres quarts, l'un à se faire une maison, l'autre un vêtement, l'autre des chaussures. Oui. Et qu'au lieu de se donner du mal pour la communauté, il fasse ses propres affaires lui-même pour lui seul. Oui, vaut-il mieux, oui, que chacun donne ses compétences à tous, ou que chacun fasse l'individualisme, que chacun réalise ses propres besoins lui-même sans s'occuper des autres. Donc on serait juxtaposés les uns à côté des autres. Adimante répondit, peut-être Socrate, le premier procès, serait-il plus commode ? Donc, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Donc vous voyez, une communauté, c'est de donner à chacun en fonction de ses compétences. Une communauté religieuse, c'est bien connu. On met infirmier celui qui n'a jamais été infirmier, vous voyez, par exemple. Oui. Je ne dis pas pour être sûr que tout le monde meure, non, mais vous voyez. Mais c'est intéressant, qu'est-ce qui constitue une vie commune entre des personnes humaines ? Est-ce que ce sont des besoins auxquels on répond en fonction de ses compétences ? Ou bien, est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, pour Platon, c'est très clair, c'est à ce niveau-là. Par Zeus, je n'en suis pas surpris. Ta réponse me suggère en effet une réflexion. C'est que tout d'abord, la nature n'a pas précisément donné à chacun de nous les mêmes dispositions, mais qu'elle a différencié les caractères et fait l'un pour une chose, l'autre pour une autre. N'est-ce pas ton avis ? Oui ? Qu'est-ce qui intéresse Platon ? C'est que chacun a des compétences naturelles qu'il doit mettre au service des autres pour l'efficacité la plus grande de tous. Donc on s'unit par nécessité en fonction de ce que... Vous voyez, le fondement naturel, autrement dit pour Platon, il est double. Il est un besoin et deuxièmement une compétence naturelle. Oui, alors ça, Platon va le développer après. Oui, c'est là que... Parce que quand on creuse un peu et qu'on interroge Platon et qu'on voit, vous voyez, qu'on essaie de comprendre d'où vient cette compétence naturelle. Alors, Platon donne sa langue au chat, pour finir. Il dit, si on a une compétence naturelle, oh, c'est une histoire de corps. C'est parce que, pour certains, le corps est en argent, pour certains, il est en fer, pour d'autres, en argent, pour d'autres, en or. Donc, en fonction de notre nature, Vous voyez, Platon dit un mythe, là. Je veux dire, on n'a pas un corps en argent, en or ou en fer. Donc c'est un langage symbolique. Où Platon veut montrer que chacun a une compétence naturelle et qu'il doit être à la place que la nature lui assigne pour répondre aux besoins de tous, pour préserver l'unité de tous et satisfaire à l'efficacité la plus grande possible. Vous voyez, ce qui est important, qui me semble intéressant, c'est qu'ici, on est du côté des besoins les plus fondamentaux. Donc le fondement de la communauté politique, pour Platon, c'est cela. Ensuite, alors après, on a tout un développement. Vous voyez, la cité va grandir parce qu'il y a d'autres besoins qui surgissent. C'est ce que Socrate dit dans toute la suite. Mais quoi ? Alors, on fait plus et mieux et plus aisément lorsque chacun ne fait qu'une chose, celle à laquelle il est propre dans le temps voulu, sans s'occuper des autres. Très certainement. Il faut donc à Dimande plus de 4 citoyens pour satisfaire aux besoins dont nous venons de parler. Car le laboureur ne fera sans doute pas lui-même sa charrue, s'il veut qu'elle soit bien faite. Ni son hoyo, ni les autres outils agricoles. Vous voyez, il faut donc un forgeron. Le maçon non plus ne fera pas ses outils. Il lui faut en effet beaucoup à lui aussi. Ni le tisserand non plus, ni le cordonnier, c'est vrai. Voici donc des maçons, des forgerons et beaucoup d'autres ouvriers semblables qui, en s'associant à notre petite cité, vont augmenter sa population. Donc, vous voyez, ce que je vais vous faire voir, c'est que pour Platon, on part de 4 besoins fondamentaux qui sont liés au corps, et que ces besoins étant liés à d'autres, la cité grandit et tout le monde s'agrège par là en fonction de sa compétence. Pour le maçon, pour le laboureur, il faut un forgeron. Donc, vous voyez, on a d'autres corps de métier qui vont se greffer. Alors, et ça, c'est le premier aspect. C'est tout ce que Platon va appeler, qui va devenir dans la cité idéale, ce que Platon appelle la classe des artisans, et qui est la classe fondamentale. Ceux-là, ils ont un corps en fer, dit Platon, parce qu'ils ont un dur labeur. Ensuite, quand, vous voyez, je passe sur toutes les intermédiaires, vous voyez, Platon va montrer qu'il y a un moment où il faut instaurer dans la cité pour la défendre, oui, parce que la cité venant à s'étendre, elle suscite l'envie des voisins. Et donc il faut parvenir à défendre la cité. Donc deuxième classe, la classe des gardiens. Et donc l'armée qui apparaît. Vous voyez, c'est très intéressant, les choses fondamentales d'une cité. L'artisan, le gardien. Et parmi ces gardiens, il y en a qu'on doit discerner comme étant les premiers. Ce que Platon appelle les chefs. Oui. Et donc, ils doivent devenir les gouvernants. Vous voyez, on voit apparaître les 3 classes de la cité. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, on est dans une recherche génétique. Quelle est l'origine de la cité? Comment est-ce qu'elle s'est développée? Comment est-ce qu'elle naît? De quelques besoins fondamentaux, la cité s'organise et grandit, et on voit apparaître différentes classes de citoyens. Les artisans, les gardiens, les gouvernants. Les gouvernants, ce sont ceux qui doivent édicter les lois pour montrer aux gardiens comment ils doivent se comporter. Vous voyez, ils dictent aux gardiens leur comportement. Vous voyez, Platon montre ainsi l'origine de la loi. Vous voyez, parce que, dit Platon, pour que ces gardiens soient vraiment efficaces, il faut qu'ils aient une éducation tout à fait appropriée. Donc notamment un régime très spécial, vous voyez, très frugal, etc. Il ne faut pas qu'ils commencent à s'amollir dans le luxe. Et donc il faut édicter des lois sur leur éducation. Comment devons-nous légiférer pour éduquer l'armée? Vous voyez, c'est très intéressant. Donc les premières lois, c'est cela, c'est l'éducation des gardiens pour défendre la cité. Et donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est derrière ça? Si on veut défendre une cité, c'est parce qu'on y tient. Donc, on veut que cette cité reste dans ce qu'elle est. Donc, les gardiens qui sont les défenseurs, vous voyez, manifestent la conception qu'on a de la cité. Ça, c'est très important, vous voyez. Le rôle du gardien est central pour Platon. Parce que je ne garde que quelque chose qui me semble important pour l'homme. Donc, il est à tout prix indispensable, vous voyez, que l'homme reste dans cette unité pour satisfaire à ses besoins, ce sans quoi, oui, il est livré au hasard de la nature. Donc il faut préserver à tout prix ces besoins fondamentaux auxquels on doit répondre. Donc les gardiens sont là pour cela. Et pour ça, il faut légiférer pour voir comment on doit les éduquer et comment ils doivent défendre la cité. Alors oui, je passe sur tous les intermédiaires parce que ce serait trop long, vous voyez, mais c'est intéressant de voir cette succession, vous voyez, la manière dont Platon chemine. Et vous verrez, quand j'aborderai avec vous tout à l'heure la politique d'Aristote, vous verrez que Aristote prend la même démarche. Il dit exactement la même chose. Il dit quelle est l'origine de la cité? Sur quoi repose-t-elle? Et comment est-ce qu'elle grandit progressivement? On verra le cheminement différent. C'est ça qui sera très intéressant. Pour Platon, vous voyez ce que je vais vous faire voir. On est du côté de quelques besoins fondamentaux et on grandit progressivement en fonction des besoins qui se rajoutent et qui sont liés les uns aux autres. Pour vivre en commun et défendre ses besoins, il faut des gardiens. Pour avoir des gardiens, il faut des gouvernants qui légifèrent. Donc ça, c'est très intéressant à voir comme recherche. Donc je passe sur tous ces détails. Vous avez toute une recherche de Platon ici sur l'éducation des gardiens. C'est là-dedans qu'il y a ce fameux texte, hein, très connu de Platon, sur le rôle de la poésie dans l'éducation des gardiens, où il dit: on ne doit pas dire aux gardiens des mensonges, mais on doit leur dire que Dieu est bon. Platon a toute une vision sur l'éducation qui est à la fois du côté, hein, du texte, et le gardien est éduqué du côté de son corps par la gymnastique, et du côté de l'âme, donc le corps par la gymnastique, l'âme, c'est par à la fois des textes, donc vous voyez des fables, hein, les récits, vous voyez toute la forme, l'aspect traditionnel qui est très important pour Platon. Vous voyez, on entre dans des fables, des récits anciens, qui dans leur contenu doivent être vrais. Et ils sont mis en musique. Tout le rôle de la musique qui est là pour une harmonie. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'au fond, c'est intelligence et amour. Vous voyez, on doit éduquer l'intelligence par un contenu vrai et éduquer l'affectivité par l'art, pour Platon. Vous voyez. Et de fait, hein, Aristote, vous voyez, ce serait aussi très intéressant à faire, vous voyez, ce serait une recherche passionnante, hein, de comparer la conception que Platon a de l'éducation et celle qu'Aristote en a, de voir la manière dont ils éduquent différemment. Alors, par exemple, quel est le rôle de la musique, oui. Alors, Platon a des remarques très célèbres, hein, sur le fait qu'il y a des modes musicaux qui ne sont pas bons pour les gardiens, parce qu'ils les avachissent. Oui. Ce sont des modes, vous voyez, qui conduisent à la mollesse. Donc, qu'ils invitent plutôt à passer leur vie, dit Platon, sur des lits mous et à banqueter toute la journée. Voyez. Il faut au contraire leur donner, voyez, des musiques viriles, voyez, et fortes, hein, donc voyez, tout le rôle du rythme. Voyez, c'est intéressant parce qu'au fond, qu'est-ce qui est derrière, voyez, qu'est-ce que Platon derrière la tête quand il fait tout cela, il a la vision de Sparte, hein, faut pas l'oublier. Et je suis persuadé que Platon est très séduit par Sparte. Parce qu'au fond, il y a quelque chose qui a été... qui dans Sparte, vous voyez, il y a des principes qu'on trouve chez Platon qui sont réalisés à Sparte. Hein. Et notamment, quand Platon dira, ce sera ce qu'il appelle sa première vague. Hein, donc, ce que Platon dit, pour arriver à la cité idéale, il faut franchir trois vagues. Très difficile à franchir. Vous voyez, nous franchissons une barre, nous allons vers le large, il y a trois barres successives à franchir. Alors, la première, c'est que la femme doit être un soldat. La deuxième, c'est la communauté des femmes et des enfants. La troisième, c'est le philosophe et le roi. Eh bien, les femmes soldats, c'est vrai, ça a été réalisé à Sparte. À Sparte, l'éducation était la même pour les garçons et pour les filles. Et c'est un problème que pose Platon et que reposera Aristote. L'éducation doit-elle être la même? Ou bien est-elle différente? Oui. Pour Platon, c'est la même. Pour Aristote, elle est différente. Et il faut se poser, il faut aller jusqu'au bout. Et ce sont des vraies questions. Ça touche les rapports entre la famille et la cité. Parce que c'est tout le problème du rapport entre la famille, qui est une communauté naturelle, et l'éducation que l'État peut donner. De quelle manière peut-il intervenir, oui, etc. Pour Platon, c'est clair que c'est l'État qui fait tout, c'est la cité qui fait tout. Oui. On remet l'enfant à la cité. Et il est éduqué, hein, selon le régime qui est prévu par le philosophe roi, qui est le plus génial de tout le monde. Oui. Hein, qui sait tout. Alors, donc, vous voyez, tout ce premier passage, hein, se conclut sur l'éducation des gardiens et puis sur le rôle des gouvernants. Alors, maintenant, je prends un autre petit passage. Vous voyez que Platon, donc c'est au début du livre 4. Là aussi, c'est un problème qui me semble très intéressant à relever. Vous voyez, je note les points qui me semblent essentiels. Je vous ai déjà fait allusion à cela tout à l'heure, et je crois que c'est très caractéristique de Platon aussi. Donc, je lis ça, et puis je continuerai cet après-midi. Ici, Adimante prenant la parole à son tour. « Que répondras-tu, Socrate ? Si l'on t'objecte que tu ne rends pas tes guerriers fort heureux, et cela par leur faute, puisqu'ils sont en réalité les maîtres de la cité, et qu'ils ne jouissent d'aucun avantage de la société, comme les gouverneurs des autres États qui ont des terres, se bâtissent de belles et spacieuses maisons qu'ils meublent à l'avenant. » Vous voyez, on fait construire des villas sur les deniers publics, donc c'est les gouvernants. Et là, tu exiges de tes gardiens et de tes gouvernants des choses héroïques. Il faut qu'ils soient d'une abnégation totale pour défendre la cité. Complètement serviteurs. Mais ils ne sont pas comme les gouverneurs des autres États, qui ont des terres, se bâtissent de belles et spacieuses maisons qu'ils meublent à l'avenant, offrent aux dieux des sacrifices en leur nom, exercent l'hospitalité, et possèdent ces biens dont tu parlais tout à l'heure, l'or et l'argent, et en général tous les biens en usage chez les favoris de la fortune. Vraiment, dira-t-on, ils sont dans la cité comme des auxiliaires salariés, n'ayant rien à faire que de monter la garde. Oui, dis-je. Oui, Socrate dit oui, parfaitement. et de plus ils ne gagnent que leur nourriture, sans y ajouter aucune solde, comme les autres mercenaires, en sorte qu'ils ne pourront même pas faire un voyage à l'étranger pour leur agrément personnel. Oui. Et il ne faut surtout pas qu'ils aillent voir ce qui se passe dans les autres régimes, ce serait trop dangereux pour eux. Hein. Ni payer des courtisanes, ni dépenser leur fantaisie pour d'autres plaisirs comme le font les gens qui passent pour des heureux. Voilà, sans compter bien d'autres, des points que tu as laissés de côté dans ton accusation. Eh bien, ajoute-les-y. Et maintenant, tu veux savoir ce que j'ai à répliquer ? Oui. Nous n'avons dit qu'à suivre notre route, et nous trouverons ce qu'il faut répondre. Nous dirons en effet qu'il n'y aurait rien d'étonnant à ce que cette condition même de nos guerriers fût très heureuse. Mais qu'au reste, notre but, en fondant une cité, n'est pas de rendre une classe unique de citoyens particulièrement heureuse, mais d'assurer le plus grand bonheur possible à la cité tout entière, parce que nous avons cru que c'est dans une cité de ce genre que la justice se découvrirait le mieux, de même que l'injustice dans l'état le plus vicieux. Et que cette découverte nous mettrait à même de trancher la question qui nous occupe depuis longtemps. Or, à présent, c'est la cité heureuse, du moins nous le croyons, que nous voulons former, sans faire acception des personnes, car nous voulons le bonheur non de quelques-uns, mais de tous. Aussitôt après, nous examinerons la cité contraire, donc la cité injuste, etc. Vous voyez, ça aussi, ça me semble très important. Tout ce qui va commander l'unité future de la cité idéale, ce n'est pas le bonheur de chacun. Et alors Platon dit, vous voyez, ce n'est pas le bonheur de tous. Je veux dire, ce n'est pas le bonheur d'une classe particulière. Ce n'est pas le bonheur de chacun. Vous voyez. Platon ne regarde pas la personne. Il regarde la cité tout entière. Vous voyez. C'est le tout qui doit être heureux. Ça aussi, ça me semble très important. Vous voyez, pour nous, hein, comme réflexion philosophique, quels sont les rapports entre la cité et l'individu ? Est-ce qu'on peut dire que ce sont les rapports entre le tout et la partie ? Vous voyez. Pour Platon, l'individu est une partie du tout. Bon, il a raison, hein. Mais qu'est-ce qui fait l'unité du tout et des parties ? Vous voyez, on revient à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui constitue les citoyens dans l'unité de la cité ? Mais qu'est-ce qui va faire que je suis une partie d'un tout ? De quelle manière suis-je relatif au tout ? Et à quel niveau ? Vous voyez, quand je suis dans une cité, dans une communauté politique, en tant que partie, en tant que citoyen, en tant qu'individu, et quel rapport j'ai avec le tout, à quel niveau ça se situe. C'est capital, parce que c'est ce qu'on verra après, c'est ce qu'on appelle la justice distributive et la justice légale. Quel rapport j'ai avec la cité ? Justice légale, comment j'obéis aux lois ? Et la justice distributive, comment le tout est-il relatif à chacune des parties ? Qu'est-ce que je dois donner à chacun pour qu'il soit heureux dans la cité ? Alors oui, pour Platon, ce qui commande, c'est que le tout soit heureux, et non pas les parties. Alors c'est une question qu'on doit se poser, vous voyez ? Peu importe le sort de chacun, ce qui compte c'est que le tout soit heureux. Donc quel va être ce bonheur ? Quel est le bonheur qui fait que la cité tout entière est heureuse ? Alors on verra ça tout à l'heure, Platon répondra que c'est que chacun soit à sa place. Donc être heureux, c'est être à la place qu'on doit avoir dans la cité. Donc oui, reste dans ton lieu et puis personne ne viendra te déranger. Que chacun soit à sa place en fonction de ce que la nature lui demande. Donc si je suis fait pour être artisan, contentons-nous d'être un artisan. Si je suis fait pour être un guerrier, je suis heureux en étant guerrier, c'est ma nature de guerrier. Ainsi de suite, vous voyez. C'est très intéressant comme problème. Vous voyez, je vous pose ces questions, parce que c'est une question qu'on verra chez Aristote. De quelle manière peut-on saisir les rapports entre tout et partie ?